Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Pour définir Anna Mouglalis, comme toujours, Lagerfeld avait la formule parfaite. Anna a la voix de Jeanne Moreau, la force d'Anna Magnani, la présence d'Ava Gardner. Sauf qu'Anna Mouglalis ne tient pas dans une formule. Tant mieux. Ces mystères nombreux nous ensorcellent. Jusqu'au 3 novembre, Anna Mouglalis est Mademoiselle Julie, dans la pièce si audacieuse et puissante de Strindberg, qu'elle joue au Théâtre de l'Atelier, à Paris, face à Xavier Legrand.
Europe 1.
Bonjour Anna Mouglalis.
Bonjour.
Anna Mouglalis, cette pièce la plus fameuse de Strindberg parle de lutte au travers de la séduction-répulsion. Elle parle de la lutte des classes et de la lutte des sexes, puisque Mademoiselle Julie, que vous incarnez face à Jean, le valet de son père, est prisonnière du sentiment de supériorité de sa classe sociale et d'une certaine haine des hommes. Il est donc question de pouvoir et de domination. Une domination qui a peur de l'amour.
Une domination qui peut, en l'occurrence dans cette pièce, qui est aussi une érotique, mais une érotique fatale. C'est-à-dire que ce jeu de la domination masculine, la façon dont le personnage de Mademoiselle Julie essaye de déjouer les codes, essaye finalement d'affirmer une liberté. Mais c'est écrit, Strindberg en sous-titre écrit, donc Mademoiselle Julie, une tragédie naturaliste. Mais il fait une pièce qui est un chef-d'œuvre, c'est-à-dire elle est touchée par la grâce, c'est d'une vivacité, d'une modernité. Ça résonne énormément avec tous les questionnements depuis MeToo,
oui,
sur ce qu'est une femme. Et c'est une pièce que toutes les actrices, ou presque, ont envie de jouer, parce que le personnage de Mademoiselle Julie, comme la plupart des actrices, essaye vraiment de se sortir des projections. Et la plupart du temps, en fait, on représente une Mademoiselle Julie complètement introvertie. Là, on fait une proposition vraiment autre dans cette Mademoiselle Julie. Avec
la metteur en scène Julie Brochamp.
Voilà, et Xavier Legrand. Puisque cette Mademoiselle Julie se permet aussi d'être extravertie.
Il est rare que les comédiens initient un projet. C'est pourtant vous et justement votre camarade Xavier Legrand à la Mostra de Venise il y a 2 ans qui avait imaginé le bonheur fou que ce serait de jouer ensemble Mademoiselle Julie. Ça aurait pu rester un rêve en suspens. J'aimerais bien savoir lequel de vous deux a tout fait pour que ça devienne une réalité.
C'est vraiment nous deux. Moi, je ne connaissais pas Xavier, mais j'ai eu la chance d'être dans le jury l'année où son film était présenté.
J'étais jusqu'à la garde.
Voilà. Et ça a été un choc. C'est un film absolument magnifique.
Alors, il a eu 2 prix à la Mostra de Venise.
Oui.
Il a eu 5 Césars, son premier film, donc jusqu'à la garde, et puis le prix Louis Deluc. C'est pas anodin. Hein.
Non, mais c'est mérité. Mais vraiment.
Mais je veux dire, c'est pas anodin de jouer avec, en fait, un comédien qui est à ce point, en même temps, parallèlement à cela, un cinéaste virtuose.
Un cinéaste virtuose, mais il faut rappeler que c'est son premier film.
En plus.
Et Xavier est avant tout un comédien. C'est un homme, un acteur qui a passé sa vie sur les planches, qui a fait le conservatoire comme moi. Et quand on s'est rencontrés à Venise, après la projection de Jusqu'à la garde, je l'ai croisé devant un ascenseur, et puis bon, c'était un plaisir que de pouvoir le féliciter parce que ce film m'a vraiment bouleversé. Donc je l'ai félicité, puis ensuite on a eu l'occasion de se reparler. Et effectivement, pouvoir jouer, Mademoiselle Julie, c'était un rêve. Et en même temps, on sait que cette pièce est très dure, très violente. Il y a eu des précédents, c'est un petit peu maudit même.
Oui.
Parce que pour plein d'acteurs et d'actrices, ça se passe mal.
On se souvient d'Isabelle Adjani.
Voilà, il y a une violence dans les propos, dans la situation.
Qui l'avait joué pendant 1 semaine, n'est-ce pas? Face à Nils Arestrup.
Et ensuite, c'est Fanny Ardant qui avait repris.
Et puis, il y a eu Juliette Binoche. Mm-hmm. Donc, les plus grandes ont pris à bras-le-corps ce personnage.
Ouais. Mais ça joue tellement, c'est tellement extraordinaire. Et puis, ça peut être tous les soirs différents. Moi, je n'ai jamais été aussi heureuse en tant qu'actrice. Jamais. Mais c'est vraiment, vraiment lié à mon partenaire. Parce que le fait que Xavier ait fait tout ce travail par rapport aux violences faites aux femmes, qu'il ait été capable de faire ressentir si fort comment ça existe, C'était une invitation, en fait, à pouvoir faire ça avec lui. J'ai une liberté sur le plateau avec Xavier Legrand. Une liberté et une complicité qui, pour moi, sont primordiales pour jouer ce texte.
Parce qu'il faut rappeler que la pièce a été créée en 1888, n'est-ce pas ? Elle a fait scandale. On trouvait à l'époque qu'elle était d'une liberté, d'une audace insoutenable. Effectivement, aujourd'hui, il y a une résonance avec tout ce qui se passe dans ce combat pour le féminisme qui n'est pas achevé. Donc, en fait, dans cette pièce, la scène, pour vous, c'est comme un ring tous les soirs.
C'est ça, c'est ça. C'est une pièce qui a été censurée, même. On joue la version complète, mais par exemple, dans la pièce sont abordées les règles des femmes. Et ça fait partie des premières choses qui ont été censurées. Il fallait surtout pas parler de ça. Dans le personnage de Mademoiselle Julie, il y a des choses incroyables. Par exemple, elle dit qu'elle a reçu une éducation féministe. Sa mère décide même qu'on va inverser les rôles dans le domaine agricole. Et elle est élevée comme une fille de la nature. On l'habille en garçon, on lui apprend à s'occuper des chevaux, à aller à la chasse, à s'occuper d'agriculture aussi. Et puis, bref, je ne vais pas tout révéler. Finalement, la mère va se retrouver dans une situation difficile puisque le père qui l'aime plus que tout, qui accepte de vivre avec elle et d'avoir un enfant avec elle sans être marié, finalement est rattrapé par les conventions, exige le mariage et à partir de là, la mère se sentant trahie. Va à un niveau se venger. Et ça devient, l'histoire des parents de Mademoiselle Julie est très dure. Et donc, elle reste imprégnée de ça. Elle a été élevée par une mère féministe et par un père qui décide de se raccrocher aux conventions sociales. Et la mère meurt, bien sûr. Elle meurt de cette violence du patriarcat. Et c'est inscrit dans le destin de Mademoiselle Julie.
Aussi. Dans les veines et le destin de Mademoiselle Julie. Europe 1. Bon. Cette pièce de Strindberg, elle se joue jusqu'au 3 novembre au Théâtre de l'Atelier à Paris. On va faire une pause très courte, Anna Bouglalis, et puis on va reprendre notre voyage parce que j'ai 1000 questions à vous poser. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, c'est la comédienne Anna Bouglalis qui se raconte au micro d'Isabelle Morizet.
Anna Bouglalis, vous êtes grecque. Le berceau de votre famille paternelle se trouve, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, à Castelorizo, c'est ça ?
C'est ça.
Qui est la plus orientale des îles grecques. Mais vous ne parlez pas le grec, pourquoi ?
C'est l'histoire de plein d'immigrés qui, pour des raisons d'intégration, n'ont pas voulu transmettre la langue du pays dont ils venaient. Donc mon père a appris le grec lui-même, en faisant d'abord du grec ancien.
Oui.
Moi, j'ai appris phonétiquement, mais j'ai été d'une paresse, pas terrible quand même. Mais comme j'ai pas fait l'effort d'apprendre l'alphabet, j'ai pas continué. Mais c'est sûr, je parlerai grec bientôt.
Vous parlerez grec un jour. Voilà. Alors, on a longtemps imaginé les femmes grecques comme Mélina Mercouri et les hommes grecs comme Zorba, n'est-ce pas ? Même si c'est un peu caricatural. Mais le sens de la théâtralité, de l'hédonisme, comme de la tragédie, par essence, justement, c'est grec ou bien c'est une légende qui plaît bien aux Grecs ?
Non, c'est grec, c'est le berceau de l'humanisme, c'est l'endroit où on invente aussi la représentation théâtrale telle qu'on la connaît, la tragédie, oui. Les mythes grecs qui ont même déterminé toute la psychanalyse d'aujourd'hui. Non, c'est pas juste des histoires, c'est profondément ancré.
Mais vous, ici, en France, vous vous sentez grec ?
J'ai un nom, je m'appelle Anna Mouglalis.
Certes, mais...
Donc depuis que je suis toute petite, on prononce mal mon nom et on me demande systématiquement d'où il vient.
On le prononce comment, d'ordinaire ?
On me dit Mouglalis.
Ah oui ?
Depuis l'école, ouais.
Vous êtes retournée sur la fameuse île de Castelorizo ?
J'y suis retournée, j'y suis allée avec mon grand-père, qui lui n'était jamais allé.
Parce oui, puisque c'est votre arrière-grand-père qui a fui, n'est-ce pas ? À cause, on va dire, de la guerre contre la Turquie.
C'est ça. En plus, c'est une île qui se trouve à 500 mètres de la côte turque. C'est une île très particulière, okay, dont le port est orienté vers la terre et vers le nord.
Étonnant.
Complètement étonnant. Mais quand on est à Castelorizo, on va faire ses courses en Turquie. C'est pour dire la proximité, vraiment. C'est l'endroit où il faut aller. Donc, ça a été à la fois français, vénitien et puis turc.
Alors, découvrir en compagnie de votre grand-père... en fait, le berceau de vos ancêtres, ça devait être très intense.
Ben, c'était beau, mais c'était, pour lui, c'était en fait compliqué, enfin, ces histoires d'immigrés. Lui a appris un dialecte qui maintenant ne se parle plus, et il comprenait, mais il ne se faisait pas comprendre.
D'accord.
Mais donc il est resté, mais il est resté quand même plus d'un mois. Et il s'est laissé faire.
Alors, on parle de la Grèce, Anna Mouglalis, mais votre maman, elle, est bretonne. Et c'est à Nantes, sur les rives de la Loire, que vous avez grandi, entre un père médecin acupuncteur qui fut président de l'Association française d'acupuncture, n'est-ce
oui,
pas
oui.
Et une maman, donc, kiné. Pourquoi, au début de son histoire, la belle Anna se voulait-elle garçon manqué? Et il paraît que vous étiez un vrai garçon manqué quand vous aviez 12-13 ans, c'est
ah
vrai
ben
Alors on raconte des choses.
C'est possible.
Étonnante.
Non, j'ai toujours eu une voix grave. Donc ça, voilà, on peut appeler ça une voix virile ou je ne sais pas. Non, je n'étais pas particulièrement un garçon manqué. En revanche, je m'occupais très peu de mon physique. Ma mère m'a coiffée jusqu'à mes 14 ans.
Adolescent, en fait, confusément, vous deviez bien savoir que vous étiez jolie, puisque les regards s'arrêtaient sur vous. Mais
si on ne les regarde pas,
ça ne vous préoccupait pas plus que ça?
Non. Non, non, non.
Alors, vous faisiez beaucoup de sport, par exemple. Le plongeon
ouais.
acrobatique, c'est vrai, ça,
ça c'est
à
vrai.
Haut niveau.
Oui, ouais,
avec
j'ai
des
fait
compétitions.
De la compétition, ouais, ouais.
Mais il vous en reste quoi? Par exemple, lorsque l'été, vous plongez du haut des rochers, vos amis sont très très impressionnés, c'est ça?
Ça peut,
vous
oui.
faites un saut de l'ange absolument irréel de 12 mètres de haut.
C'est ça, je fais, bon, ma spécialité maintenant, c'est devenu le carpé. Celui-là, je peux le faire autant que je veux.
Alors c'est quoi le carpé?
C'est un plongeon, mais qui va... En fait, on se projette d'abord dans la verticalité, vers le haut, et puis on plie son corps et on le redéploie avant d'arriver dans l'eau. Ça vous dit quelque chose?
Et
c'était
vous,
un plongeon
et vous,
très
vous
simple,
faites ça à quelle hauteur, au maximum?
Bah, en compétition, on faisait ça à partir d'une planche à 10 mètres.
Ouais.
Donc avec la planche, on peut encore prendre un peu de hauteur. Mais...
Mon Dieu, mon Dieu. Alors, on va faire le point sur ce qu'on dit sur vous, qui est vrai ou qui est faux. Parce que vous avez une énergie, paraît-il, assez radicale. Et il paraît que... adolescente, un beau jour, vous avez décidé, parce qu'on vous enquiquinait dans le métro, vous avez décidé de vous raser la tête pour ne plus être importunée. C'est un geste quand même extrême de la part d'une jeune fille qui avait à l'époque 16 ans.
18, je crois, quand
vous
je fais ça,
18.
J'ai 18 ans. Ouais.
Donc 18 ans et vous vous rasez réellement la tête.
Mmh. À blanc même.
À blanc.
Non, j'imaginais que ça allait être doux comme un crâne chauve. Mais pas du tout.
Et les réactions autour de vous?
Le buraliste chez lequel j'allais tous les matins m'a appelé jeune homme. Bon, voilà. Non, mon arrière-grand-père m'a dit que je ne pouvais revenir le voir que quand j'aurais des cheveux.
Il vous a dit ça?
Mm-hmm.
Donc il a fallu attendre un petit peu que les cheveux poussent pour pouvoir retourner à Nantes.
J'y suis quand même retournée, mais... Non, mais c'est vrai que ce qu'on a fait...
Vous étiez
femmes,
en terminale, c'est ça? Oui.
Oui.
Ouais. Mais et la réaction des professeurs alors, ce jour-là, lorsque vous entrez dans la salle de classe?
Moi, je ne me souviens pas du tout. J'ai aucun souvenir de ça. De toute façon, je pense que j'avais la grimace qu'elle avait.
C'est presque punk comme réaction.
Oui, mais il y avait déjà plein de précédents. Donc, non, il n'y a pas eu de commentaires ou... Mais c'est vrai que les cheveux, quand on est une jeune femme dans le métro, c'est... une espèce de flot de sensualité. On se fait emmerder tout le temps. À partir du moment où je me suis rasé la tête, j'ai été vraiment tranquille.
Mais en réalité, Anna Mouglalis, il n'y a que les filles belles qui peuvent se permettre un geste, j'ai envie de dire aussi, destructeur, sans toucher à leur intégrité.
Et ça, c'est une atteinte à la beauté. Enfin, c'est une atteinte à la féminité, bien sûr que c'est une atteinte. Après, c'est intéressant d'explorer tout ça.
C'est intéressant d'explorer, voilà.
Mmh. Mais on est multiples. Et on peut avoir des cheveux, ne pas en avoir. C'est même une expérience sensuelle.
Mais ça dit des choses, en tout cas, sur le tempérament.
Ben oui, c'est qu'on peut se réinventer, je pense, vraiment. Et rester sur sa voie.
Voilà, exactement. Ça dit qu'on peut se réinventer et rester sur sa voie.
Europe 1.
Je reçois Anna Mouglalis cet après-midi. Anna Mouglalis qui joue jusqu'au 3 novembre au Théâtre de l'Atelier la pièce la plus fameuse de Strindberg, Mademoiselle Julie. A tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1.
Cet après-midi, l'invité d'Isabelle Morizet est à l'affiche de la pièce de Strindberg, Mademoiselle Julie, au Théâtre de l'Atelier à Paris, jusqu'au 3 novembre. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1, il est 15h21.
C'est en compagnie d'Anna Mouglalis cet après-midi qu'on prend les chemins de traverse et puis qu'on agite la mémoire. Voilà, les souvenirs. Chère Anna, vous avez 16 ans et vos parents qui très tôt vous ont appris l'autonomie vous font suffisamment confiance pour accepter de vous voir comme ça, un beau jour, partir direction Paris en compagnie d'un petit copain qui lui est majeur. Paris où vous allez passer votre bac et vous inscrire en Hippocagne. Hippocagne, eh ben ça rassure votre père. Seulement, il ne va pas être rassuré très longtemps parce que Hippocagne, vous avez fait un an, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et pourquoi seulement ?
Parce qu'en fait, ça ne m'a pas du tout passionné. Je n'ai jamais adoré l'école, mais j'étais bonne élève. Et j'avais l'impression qu'en Hippocagne, j'avais l'impression qu'ils étaient peut-être supérieurement intelligents. Donc j'avais eu envie de ça, alors que non, on nous demande une capacité de travail énorme, mais c'est surtout des bons élèves, plus que des gens intelligents. Ça n'a rien à voir, en fait.
Et que c'est donc, un âge auquel j'avais plus... Donc vous êtes ennuyée.
Oui, puis j'avais plus envie du tout de rester assise. J'avais envie de bouger. Et puis, il faut avoir quelques moyens ou alors avoir une bourse, parce qu'on nous demande de lire beaucoup d'ouvrages. Quand on va aller chercher à la bibliothèque, la plupart du temps, ils n'y sont plus ou les pages sont arrachées. Enfin, c'est quand même une préparation à un concours.
Oui, bien sûr.
Oui, j'ai arrêté. J'étais très heureuse d'arrêter.
Surtout que vous avez arrêté, mais pour passer et réussir le concours d'entrée au conservatoire, ce que vous avez fait sans jamais de prendre de cours de théâtre auparavant, c'est ça ?
Je ne m'étais pas inscrite dans une école. Je ne savais même pas qu'il y avait des cours gratuits. Si j'avais su, peut-être que je l'aurais fait, mais c'est grâce à une expérience avec des comédiens que je faisais répéter en tant qu'assistante à la mise en scène, qu'on m'a parlé du conservatoire en me disant « mais tu devrais essayer, c'est formidable ». Et pour ce faire, il fallait attester d'un an de cours.
Alors ?
On m'a orientée vers un ami qui, lui, avait une compagnie et qui m'a fait un tampon. Et puis, mais j'ai été aidée, Patrick Mille, je ne sais pas si vous connaissez
ce comédien formidable.
Et alors, donc j'ai rencontré Patrick quand je préparais le conservatoire, parce que pour avoir des répliques aussi, c'est important d'être dans un cours pour pouvoir travailler avec d'autres élèves, acteurs. Et il m'a permis de venir dans son cours un petit peu, et il m'a préparé notamment pour une scène de Marivaux.
Donc vous avez choisi ensemble un monologue.
Non, là, ça c'était une scène de Marivaux.
Ah, d'accord.
Une scène, okay. Justement. Les monologues, j'ai pu les travailler toute seule.
Bon, vous êtes entrée, vous avez réussi le concours d'entrée au conservatoire sans avoir pris de cours de comédie auparavant, le temps pour pouvoir passer le concours. Et juste quand vous passez justement ce concours, dans le jury, il y a des gens qui déjà songent à vous pour le cinéma.
Voilà, ça m'a permis de rencontrer Francis Géraud. Et puis aussi de faire une tournée avec un metteur en scène sur une pièce de Wedekind qui s'appelle L'éveil du printemps, où il cherchait de très jeunes comédiens. Mais bon, je me définis comme une actrice qui a fait une école. c'était les prémices, c'est peut-être ce qui m'a permis d'entrer dans cette école, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent énormément d'années à préparer ce concours et qui passent énormément d'années à oublier la simplicité du geste aussi. Moi, j'y suis allée, comme la première fois que j'ai plongé, quand j'avais, 4 ou 5 ans. On ignore la peur et on ne passe même pas en force. En fait, on essaye. Et je pense que ça a sans doute un charme, même le fait de n'avoir aucun savoir-faire pour entrer dans une école, c'est un atout, forcément.
Bien sûr. Alors, en parlant du conservatoire, le public ignore souvent qu'au conservatoire, on donne des cours de chant, des cours de danse, des cours d'acrobatie des cours d'escrime.
Oui, oui.
Et vous avez pris tous ces cours ?
L'escrime, je n'ai pas fait beaucoup. Ça me rendait un petit peu claustrophobe, le masque. En revanche, l'acrobatie, j'ai eu un prof exceptionnel, Alexandre Del Perugia. On était très peu nombreux, parce que ça fait un petit peu peur, l'acrobatie. moi, venant du plongeon, j'étais...
Oui, moins tétanisée que les autres.
Voilà, mais ce professeur est extraordinaire. En 2 heures, tout le monde avait appris à prendre donc 2 prises d'appel sur le mur et à se retourner en arrivant sur ses pieds. Donc, c'est-à-dire comme un saut périlleux arrière, en montant sur le mur.
Avec lui, tout le monde était capable de le faire.
On était 4.
Incroyable. Oui, mais bon.
Oui. Et il n'y avait aucun échauffement musculaire, rien n'était fait en force. Il nous faisait uniquement travailler sur la mobilité du regard. Parce qu'à partir du moment où on libère son regard, on est capable de beaucoup de choses.
Incroyable. Anna Mouglalis, juste avant de faire une pause, il y a une question que j'aimerais vous poser sur Paris, parce que vous étiez une jeune Nantaise, soudain immergée dans la capitale. Vous avez toujours, paraît-il, été amoureuse de cette ville. Et vous dites avoir beaucoup, à cette époque-là, on parle justement de l'époque de l'apprentissage au conservatoire, mais avant aussi, la première année en Hippocagne. Vous dites avoir beaucoup hanté la cathédrale Notre-Dame. Et vous pouviez passer des heures à écouter la maîtrise au cœur de Notre-Dame. Et même, et alors ça m'a beaucoup intriguée, même parfois vous alliez parler avec l'exorciste de Notre-Dame qui vous expliquait la symbolique gothique. Vous étiez fasciné par ce savoir qu'il, comme ça, vous distillait.
Fasciné, c'est pas le mot, mais c'est vrai que c'est assez stupéfiant. Moi-même, je pensais que l'exorcisme au cœur de Paris, ça se pratiquait plus. Donc, non, c'est intéressant. Et il était débordé.
Il était débordé,
ouais. Mais effectivement, le sens du sacré, bah, cette théâtralité-là, elle est ahurissante. Les jeux de lumière dans Notre-Dame, les vitraux sont spectaculaires, et la maîtrise de Notre-Dame, ouais, c'est très beau. J'ai pas eu du tout d'éducation religieuse. J'ai été baptisée, mais c'était plus une façon de créer un lien avec la Grèce à travers l'orthodoxie. Mais on m'a mis dans les mains tous les textes, donc j'ai pu lire le Coran, voilà, la Torah, les évangiles, des textes bouddhistes, enfin, plein de choses, mais j'ai jamais eu d'endoctrinement, on va dire.
Non, mais j'entends bien. Mais en tout cas, voilà, je reçois une femme curieuse de 1000 choses. Voilà, on fait une pause et on se retrouve en compagnie d'Anna Mouglalis.
Europe 1. Une voix, un tempérament, une comédienne, une pièce. Isabelle Morizet retrace le parcours d'Anna Mouglalis cet après-midi. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Je reçois une femme d'une densité rare. Le rôle de Mademoiselle Julie de Strindberg ne pouvait pas lui échapper. C'est chose faite, Anna Mouglalis est Mademoiselle Julie au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 3 novembre. Puis cet après-midi, eh bien, on se balade ensemble. Alors chère Anna, cette voix brumeuse, rauque, sensuelle, qui partage la magie des voix de Fanny Ardant, de Delphine Seyrig ou de Jeanne Moreau, bref, cette voix sombre qui transcende les mots, est-il vrai qu'au conservatoire, on a voulu que vous la rééduquiez pour la faire monter d'une octave?
En fait, on m'a dit que j'avais une voix qui ne correspondait pas à mon physique et donc que je ne travaillerais jamais. Et on a mis à ma disposition, parce que c'est superbe que cette école puisse offrir cette consultation. Là, on avait tous droit à une consultation chez un phoniatre, mais il se trouve que je n'avais aucun problème.
Bien sûr,
j'avais rien.
C'est juste votre grain naturel.
Voilà, mais on m'a dit que, bah, comme c'était trop en décalage avec mon physique de jeune première, on va dire, on me proposait cette opération. Mais j'ai
opération.
Oui, pour remonter en fait la voix. Et bon, ça a été ma première transgression, mon premier refus, puisque si je n'avais pas de problème, il n'y avait pas de raison pour que je me fasse opérer. Et je pense que la voix, au même titre que le regard, sont des miroirs de l'âme et que, bien sûr, c'est dérangeant peut-être.
Mais alors, dans le choix des pièces à travailler au conservatoire, effectivement, quand vous jouiez des ingénues, vous sentiez parfois que le prof qui vous dirigeait était contrarié.
Alors, il n'y a plus d'emploi au conservatoire. Donc, on n'est pas une jeune première ou une jeune bonne. Il n'y a pas tout ça. C'est fini depuis mai 68.
Et c'est très bien.
Voilà. Non, en revanche, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de... forcément, j'avais un goût pour des rôles qui n'étaient pas ceux-là. C'est souvent assez ennuyeux, d'ailleurs, les rôles de jeune première. Donc j'étais attirée par autre chose, et puis revendiquer la puissance. Mademoiselle Julie est une jeune première, mais une jeune première atypique, ouais, et ma voix était atypique. Donc je suis allée vers des personnages atypiques, et j'ai eu la chance, grâce à cette voix, de tourner avec des metteurs en scène, en fait, assez chevronnés.
Par exemple, Claude Chabrol a été le premier réalisateur qui n'a pas été dérangé par cette singularité, c'est ça ?
Voilà, au contraire, ça l'amusait beaucoup. Donc lui était très séduit par ma voix, et à sa suite, après, d'autres aussi l'ont été. Bon, aujourd'hui, j'ai l'âge de ma voix, mais c'est vrai que pour certains castings, c'était... On me faisait venir sur photo, et puis une fois que j'ouvrais la bouche, on me disait « bah non, non ». Non, mais parce que c'est une voix qui raconte déjà une forme d'expérience.
Oui, c'est ça, c'est la voix d'une vieille âme. C'est mais ça. Chabrol, ça l'a charmé de voir, parce qu'il s'agissait donc du film « Merci pour le chocolat », donc vous étiez toute jeune, et lui, au contraire, il trouvait ça absolument magique, cette voix de vieille âme.
C'est ça, ça lui plaisait. C'était drôle d'ailleurs, parce que quand je suis allée au casting pour Chabrol, on m'avait dit que bon, il fallait pas être trop grande. Normalement, le rôle était encore plus jeune que moi, donc j'y suis allée déguisée. J'avais jamais de chaussures plates à l'époque, donc j'avais emprunté des baskets d'un copain, qui sont depuis devenues les fameuses baskets magiques, puisque j'ai eu ce rôle. Et j'ai joué, d'ailleurs tout le film je joue, moi je suis aussi impressionnée par le fait de jouer pour la première fois avec Chabrol, Isabelle Huppert, Dutronc, mais je joue en m'excusant. donc ma voix est beaucoup plus aiguë que celle que je pratiquais au quotidien.
Mais c'est ça. Alors, comme ce sont les hasards heureux qui tricotent les destins, eh bien Karl Lagerfeld, en fait, Anna Mouglalis, vous a découverte en visionnant un jour le film de Chabrol, Merci pour le chocolat. C'est ça. Comme ça qu'il vous a repéré réellement.
Alors, il a vu le film, mais il avait commencé par me voir dans une émission de télé où je parlais du film pour
la
une
voix,
sortie.
La voix, justement, la voix encore a dû compter.
C'est ça.
Oui.
Et à partir de là, il m'a invité à faire une séance photo avec lui. Moi, j'étais un petit peu traumatisée parce que j'ai été un petit peu mannequin quand je suis arrivée à Paris. Enfin, on est venu me chercher sur le trottoir pour me proposer d'entrer dans une agence. J'avais dit pourquoi pas, mais j'étais vraiment très très mauvaise comme mannequin. J'aimais pas ça et je me vivais comme une arnaque. J'étais persuadée qu'on allait réaliser qu'en fait, j'étais pas du tout ce qu'il fallait pour les photos. Et donc j'étais dans une tension, quoi, comme si j'étais en plein mensonge. Et donc quand je me suis retrouvée à faire des photos avec Karl Lagerfeld, j'ai cru qu'il allait se passer à nouveau cette chose-là. Puis généralement, je me sentais complètement morte pendant la séance photo. Voilà, cette idée de l'image fixe qui tuerait toute
vie. Or, avec Karl, vous parliez, vous échangiez.
Ah, mais ça n'a pas arrêté, en fait. Tout est sujet à rencontre. Avec Karl. Et puis, bon, ça, c'est la première séance, mais il m'a proposé de sortir, son studio était rue de Lille, dans la rue de Lille, torse nu. Alors ça, j'ai adoré. Je ne suis pas du tout exhibitionniste, mais là, c'était une expérience insensée.
La nuit, hein.
Oui.
Il faut dire.
Oui,
c'est déjà un tout petit peu plus... Voilà.
Un tout petit
peu plus discret. Et donc, prise de photo, voilà, tout se passe bien. Et d'ailleurs, vous dites... Du jour où Karl Lagerfeld a décrété que j'étais belle, tout le monde a été d'accord.
Ah ouais, c'est incroyable. Non, mais Karl, il a libéré quelque chose. Quand je dis qu'il a, voilà, il a décrété que j'étais belle, et puis tout le monde s'est mis d'accord. À mon endroit, la question, en fait, de belle ou pas belle, a été complètement évacuée. C'est-à-dire que j'étais. et c'est une chance, parce que ça m'est arrivé très tôt.
Alors, Karl, donc, vous repère, vous devenez l'égérie de la maison Chanel. Et puis, et alors là, c'est l'ambiguïté de cette forme de célébration, c'est quand même incroyable. À partir du moment où vous êtes devenue une égérie Chanel, certains metteurs en scène ont trouvé que ce statut était incompatible avec le métier de comédienne. Et alors, j'ai été très surprise d'apprendre que Claude Chabrol, qui vous avait révélé au cinéma, le premier qui vous a fait tourner, Claude Chabrol, a également été le premier à dire « Ah, c'est fini !» Maintenant, Anna est passée de l'autre côté.
Oui, il a dit que j'étais plus une actrice. mais c'est intéressant. Je reviens encore à Mademoiselle Julie parce que ça m'habite et que je suis en plein dedans. Mais on a beaucoup de mal avec la liberté financière des femmes. Donc il a fallu salir, enfin je ne parle pas de Chabrol, parce qu'en l'occurrence il ne l'était pas. C'était pas un misogyne, il n'était pas sexiste. J'ai pas du tout eu cette expérience avec lui, même plutôt le contraire. Mais après les jugements, oui, c'est ça. Alors on est forcément, parce qu'on est belle, on est forcément bête. Mm-hmm. Si on gagne de l'argent, on pense qu'on va en vouloir plus. Alors que non, cette liberté... voilà, de ne pas être dans une inquiétude pour le quotidien, m'a permis de faire des choix radicaux, de jouer dans des films expérimentaux, de travailler sur des projets de théâtre sans moyens, mais qui finissent éventuellement par en trouver. Donc,
Et c'est justement pour décoller cette image de, on va dire, d'égérie si glamour que vous avez toujours préféré les films d'auteurs radicaux, comme vous dites.
Je les aimais déjà, j'ai grandi avec.
Oui, parce que vous placez, j'ai envie de dire, au sommet de votre cinéphilie, par exemple, un cinéaste rebelle et libre comme Pasolini. Vous avez toujours eu cette culture-là, n'est-ce pas ?
Oui, mon amour, mon fol amour du cinéma, il est né avec le néoréalisme italien, qui se déploie chez Pasolini. Voilà, il a aussi son lyrisme, il invente... quelque chose d'autre. Mais oui, je suis tombée folle de ce cinéma-là, mais ça passe aussi par, après par des Tarkovsky, où c'est des œuvres tellement puissantes. Moi, j'avais juste envie de participer et d'être dans des œuvres puissantes comme ça, parce que le cinéma est une industrie, mais c'est une industrie qui produit aussi des chefs-d'œuvre.
On retrouve tout de suite Anna Mouglalis.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
15h43, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite. On retrouve Isabelle Morizet et la comédienne Anna Mouglalis pour la suite de leur tête-à-tête. La comédienne nous donne rendez-vous au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 3 novembre dans une pièce signée Strindberg, Mademoiselle Julie.
Anna Mouglalis, très peu de jeunes actrices en abordant la trentaine ont eu le privilège d'être choisies pour incarner Simone de Beauvoir, Juliette Gréco, Coco Chanel, qui ont en commun d'être des femmes fortes, puissantes, libres, qui ont marqué chacune à leur façon le siècle. Quelle est la part de jeu, quelle est la part d'incarnation quand on joue des personnages qui ont existé et qui vivent toujours, par exemple, comme Juliette Gréco ?
En fait, la part de liberté, elle est énorme pour l'actrice que j'étais à cette époque-là, puisque on m'avait souvent opposé déjà ma voix qui ramène de l'autorité. Oui. Je me suis retrouvée avec des metteurs en scène certaines fois qui me disaient « J'ai un problème avec ta voix. » Non, mais ça fait quand même un mois qu'on se fréquente, que tu me proposes le rôle. Comment tu peux avoir un problème avec ma voix ? Parce que ma voix, elle est pas, enfin, je vais pas pouvoir la changer. Mais donc, en fait, ce qui a été formidable, c'est parce que pendant tout un temps, on m'a proposé, alors après le film de Chabrol, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais des rôles de femmes un petit peu, on me disait mystérieuses, mais elles n'étaient mystérieuses que parce que le scénario ne s'intéressait pas à elles, ou de des objets du désir. Au bout d'un moment, ce folklore m'a un peu fatiguée, parce que c'était une répétition dans des films très différents, mais une répétition quand même d'une figure dans laquelle je n'arrivais plus, moi, à être passionnée. J'ai attendu, on m'a proposé de jouer Simone de Beauvoir. Ça n'a pas été facile, il a été très courageux, le metteur en scène. Parce qu'au début, on lui a dit, mais non, mais Simone de Beauvoir, c'est une intellectuelle, comment tu peux proposer ça à ce mannequin Chanel ? En ignorant complètement le fait que j'étais actrice. Et il s'est battu et on l'a fait. Et Simone de Beauvoir avait beau être une intellectuelle, elle était une femme, et une femme qui s'est inventée sa liberté. Ce qui a été formidable, c'est qu'en jouant des personnages ayant existé, j'ai pu imposer des choses qu'on m'empêchait de faire ailleurs parce qu'elles appartenaient à ces femmes-là. Donc je me suis réappropriée des choses de moi-même,
ouais,
grâce à la liberté qu'elles avaient imposée, elles.
Alors, dans la série absolument formidable sur Canal Baron Noir, vous interprétez également, et Dieu sait s'il s'agit d'une femme de pouvoir, vous interprétez tout simplement la présidente de la République française, rien de moins. Il a fallu un coaching particulier pour intégrer certains codes, comme par exemple le fait de discourir, le langage des politiques lorsqu'ils sont derrière un micro, la manière de poser la voix pour laisser résonner plus que d'autres certains mots. Enfin, on sait qu'il y a plein d'artifices. Est-ce que ça, on vous l'a fait travailler ou pas du tout ?
J'ai travaillé de mon côté.
Ouais.
Mais les textes sont extrêmement bien écrits. Un des scénaristes, qui maintenant est le scénariste de toute la troisième saison, lui a écrit des discours. Oui. Et a accompagné des hommes politiques pendant longtemps.
D'accord.
Donc ils sont vraiment écrits tels que certains discours qu'on entend, que ce soit à la radio, à la télévision, les allocutions politiques. Quoi. Donc non, mais j'ai eu besoin, effectivement, parce que c'est un ton très particulier.
Mais oui.
Il faut être un peu faux dans la mesure où il faut citer le travail qui a été fait pour concevoir les idées.
Alors la diffusion de la saison 3 de Baron Noir, Anna Mouglalis, elle est prévue pour quand ?
Pour le mois de janvier 2020.
D'accord. Et où en est votre envie de réaliser des films ?
Ah, elle est là.
Parce que ça fait quelques années quand même.
Oui.
Hein ? Et vous en avez écrit des scénarios, plusieurs même.
Oui, c'est vrai. Je continue à travailler, il y en a un qui me tient vraiment à cœur, mais comme je disais tout à l'heure, c'est une industrie un petit peu particulière. C'est une industrie très masculine. C'est vraiment pas facile, en tant que femme, de réussir à réaliser.
Alors c'est étonnant, parce que vous dites que c'est une industrie masculine. Bon, vous avez présidé le jury de la Révélation au Festival du cinéma américain à Deauville, en septembre. Et justement, en parlant des réalisatrices au cinéma, vous avez dit « Ah, on aime beaucoup que les femmes commencent, mais alors on n'aime pas trop qu'elles continuent. » Dans les sélections de premiers films, il y a toujours plein de films de femmes, mais elles ont beaucoup de mal à en faire un deuxième. Pour quelle raison ?
Alors, le deuxième, ça va mieux. Mais le troisième ?
Le troisième, là, on sort des écrans radars, c'est ça ?
Mais je parle des réalisatrices, mais comme on pourrait parler des actrices ? Elles sont où, les actrices, par exemple, de 50 ans ?
Il paraît que c'est pire encore aux États-Unis. Avant de faire une pause, Anna Mouglalis, vous avouez, en fait, ne pratiquement jamais regarder de films qui divertit. Vous refusez cette facette du cinéma ?
Non, je refuse pas. Et puis, je peux prendre énormément de plaisir à avoir un film de grand spectacle. J'y vais moins volontiers. C'est vrai que je préfère les films qui me rappellent que je vais mourir plutôt que les films qui me font oublier que je vais mourir.
On va rester sur cette phrase incroyable à méditer. On ramasse les copies dans quelques secondes. On retrouve tout de suite Anna Mouglalis.
Europe 1. Elle est Mademoiselle Julie jusqu'au 3 novembre au Théâtre de l'Atelier à Paris. Anna Mouglalis se livre depuis 15h sur Europe 1 et elle est l'invitée d'Isabelle Morizet pour quelques minutes encore.
Anna Mouglalis, Isabelle Adjani, Fanny Ardant et Juliette Binoche le savent bien. On ne joue pas Mademoiselle Julie, ce personnage de Strindberg qui se perd dans sa démesure sans se consumer. Il faut être dominatrice, animale, transgressive et puis perdue à la fois. Alors, chaque représentation, pour résumer, est un défi qui s'achève de façon funeste. Alors, vous les rassemblez comment, vos forces, quand vous sortez de scène ?
C'est une pièce qui m'en donne beaucoup.
Ah.
Vraiment, j'ai trouvé avec ce texte, avec mon partenaire Xavier Legrand, et puis la façon dont Julie Brochen l'a mis en scène et nous a laissé la liberté d'être à la fois un féminin atypique et un masculin atypique. C'est une pièce que j'ai envie que ma fille la voie, j'ai envie que plein de gens viennent la voir. Je me trouve au bon endroit.
D'ailleurs, c'est une reprise. Vous l'avez jouée avant l'été, vous la rejouez à nouveau.
Exactement.
Et sans doute, irez-vous la jouer en tournée ?
On va la jouer en tournée, oui.
Votre fille, Saul, qui, je crois, a 12 ans, elle a vu sa maman mourir sur scène, puisque bon, ça se termine de manière funeste, Mademoiselle Julie.
Ouais, mais ça fait très longtemps qu'on me tue.
longtemps que votre fille vous voit mourir sur les plateaux de tournage, théâtre.
J'ai même joué dans un film qui s'appelle « La femme la plus assassinée du monde ».
D'accord.
Tant qu'elle m'a vu mourir de plein de façons, oui.
Anna Mouglalis, le rôle de Mademoiselle Julie illustre donc votre devise « vivre dans le feu ». Il faut accepter l'idée de se consumer, en fait. Ça, on ne l'accepte pas assez. Vous n'aimez pas les gens qui s'économisent ?
Non. Mais « vivre dans le feu », ça vient de Marina Tsvetaeva, qui est une poétesse russe.
Oui, que vous adorez.
Insensée, ouais, c'est tellement beau. Effectivement, moi, je veux être éprouvée par les choses. Enfin, voilà, je veux vivre. Je veux vivre.
Vous dites, on se rencontre en rencontrant les gens. Vous voyagez beaucoup ?
Oui, j'ai la chance avec mon métier aussi de croiser beaucoup de gens, de passer beaucoup de temps avec des gens très divers. J'ai pu aussi aller travailler à l'étranger. Ça a été d'ailleurs une fenêtre sublime, parce que quand on entend régulièrement qu'on est trop comme ci ou trop comme ça, partir à l'étranger c'est formidable, parce qu'on est juste exotique. Donc on n'est plus trop ou pas assez, on est juste exotique. Et ça m'a donné beaucoup de liberté. Jouer dans une autre langue...
Alors, quels sont les pays qui vous ont trouvé exotique? Vous avez tourné pour les Américains.
Mais c'est plus les Italiens, parce que les Américains...
Alors, les Italiens, pourtant, il y a une filiation. Et puis, vous avez cette voix. Lagerfeld lui-même disait que vous aviez la force, le caractère d'une magnanie.
Alors, oui, mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en Italie, on m'a beaucoup doublé quand même.
Pourtant. Non.
Mais si. Et si. Non, mais bon, juste parce que j'ai joué dans des films peut-être un petit peu plus produits en Italie que les films dans lesquels j'ai joué en France. Enfin, ça dépend d'ailleurs, pas tous. Mais, y a des gens qui ont peur que l'accent gêne la compréhension. Sur certains films, ça m'a coûté. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais je me suis retrouvée à me doubler moi-même en français, par exemple. Parce que...
La voix italienne, elle vous convenait ou pas?
Non, c'était particulier. Le plus drôle, c'était le doublage japonais de Merci pour le chocolat.
Ah oui, parce qu'elles ont une voix quand même très, 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 très aiguë, les japonaises, n'est-ce pas? Donc là, il y avait combien d'octaves entre la voix de la comédienne qui doublait et la vôtre?
C'était énorme. Mais en Italie aussi, hein, justement, on avait enfin mis une vraie voix de jeune première. Sur ce personnage.
Et bien justement, votre voix, qui est cette voix de brume si singulière qui nous a bercé là pendant une heure, je ne peux pas résister à cette question avant qu'on ne se quitte, Anna Mouglalis. J'ai appris, alors c'est peut-être complètement faux, vous allez nous dire si c'est vrai, j'ai appris que Georges Moustaki et le chanteur Christophe vous avaient contacté pour vous faire chanter. C'est vrai ça? Un jour peut-être, comme Mélina Mercouri, autre femme grecque, l'a fait, un jour peut-être sortira un album d'Anna Mouglalis?
Peut-être un jour. Avec Georges Moustaki, ça a été une rencontre superbe. On a fait une chanson qui est devenue le générique de fin du Mécano de la Générale de Buster Keaton. La musique officielle, parce qu'il n'y avait pas de musique officielle pour le Mécano de la Générale, et MK2 a acheté le film et les droits.
Donc il y a un titre qui a été enregistré à l'époque avec Moustaki.
Mais le compositeur n'était pas Moustaki. Moustaki a écrit les paroles et il était là au moment de l'enregistrement. Mais c'est Joe Hisaishi, compositeur japonais, qui avait composé.
Et avec Christophe?
Avec Christophe, j'avais sollicité, on se connaît depuis longtemps, j'avais sollicité Christophe pour offrir un moment de poésie à Karl Lagerfeld. Oui. Et je lui avais demandé s'il accepterait de m'accompagner au piano pour que ce soit aussi un moment musical. Et Christophe est tout de suite parti, enfin, comme il peut être inventif, dans du travail. Donc il m'a demandé de venir enregistrer les poèmes pour avoir une trace chez lui. Et il a mis ça dans son album, Les Vestiges du Chaos.
Donc ça veut dire qu'il y a donc plus que des traces, des promesses, de belles promesses qui existent, et peut-être un jour, voilà, une autre vie parallèle à celle d'actrice et de comédienne.
Bah c'est magnifique le chant, c'est magnifique.
En attendant, jusqu'au 3 novembre, eh bien vous nous donnez rendez-vous à Anna Mouglalis au Théâtre de l'Atelier à Paris, où vous êtes Mademoiselle Julie de Strindberg. Merci infiniment.
Merci à vous.
À très vite.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr samedi prochain dès 15h sur Europe 1 en compagnie de Sylvie Vartan. Dans un instant, c'est l'équipe est sauvage. On va se détendre avec Mathieu Noël jusqu'à 18h. Europe 1.